Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti, écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors, en avant pour découvrir Dans la classe de...
Christophe Colomb.
Bien, maintenant, qui peut me dire qui a découvert l'Amérique? Allez, je ne vais pas vous manger. Essayez au moins, ce n'est pas grave de se tromper. Bon, je vois. Eh bien, écoutez, puisque tout le monde a peur de faire une erreur, alors que ce n'est vraiment pas grave, je vais vous présenter quelqu'un.
Oh, c'est le grand livre d'histoire.
Cette personne s'est trompée toute sa vie. Et pourtant, elle a marqué l'histoire. Vous êtes prêts?
Oui.
Parfait. Alors, préparez-vous à accueillir Christophe Colomb.
C'est rigolo. Il a pas l'air trop vieux, mais il a déjà les cheveux tout blancs. Moi, j'aime trop son chapeau de marin.
Oh, oula, oui, ça donne le mal de mer, tout ça. J'ai l'impression d'avoir traversé une tempête. Quelqu'un peut me dire où je suis? En Asie, peut-être? Ça y est? J'y suis arrivé, c'est bon?
Non, monsieur Colomb. Désolé de vous décevoir, mais vous êtes dans une école. Je vous ai fait sortir du grand livre d'histoire pour que vous puissiez raconter votre vie à mes élèves. Leur expliquer que parfois, même en se trompant, on peut faire de belles découvertes.
Me tromper, moi? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais soit, je vais vous raconter mon histoire. Hey, par où commencer?
C'est vrai que vous êtes né en Italie?
Très bon début, ça. Et c'est on ne peut plus vrai. En 1451, dans la ville de Gênes. Avec mes parents et mes quatre frères et sœurs, on habitait un quartier qui surplombait le port. De là-haut, je passais mon temps à regarder les bateaux qui voguaient sur les flots. Ça me faisait voyager sans même bouger de chez moi. Et puis dans les rues, j'écoutais les marins qui contaient leurs histoires incroyables à mon père, qui lui était tisserand.
Un tisserand, les enfants, c'est une personne qui fabrique des tissus.
Ah ! Et vous faisiez quoi d'autre quand vous étiez petit ?
Ah, je me souviens que je passais beaucoup de temps à lire, que j'adorais les mathématiques et que j'étais un chrétien très croyant et très pratiquant.
Et c'est à Gênes que vous passez votre permis bateau?
Un permis? Quelle drôle d'idée! Si tu veux tout savoir, petit, je n'ai jamais attendu une quelconque permission pour naviguer. En 1461, lorsque j'ai eu 10 ans, je me suis engagé dans la marine.
À 10 ans? Mais on sait à peine nager à cet âge-là!
Oh, ça, c'était le cas de beaucoup de mes membres d'équipage. On ne s'en souciait guère à l'époque. Avec ce premier travail, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai goûté les épices les plus puissantes d'Orient. J'ai mangé du poisson séché et j'ai pu caresser les plus belles fourrures confectionnées sur les rives de la mer Baltique.
Ça doit être trop bien de voyager partout comme ça.
Et être loin de ses parents et de son grand frère? Non, merci.
Ah, tu as raison. À moi aussi, ma famille, elle commençait à me manquer. C'est pour ça qu'en 1476, je débarque à Lisbonne, la capitale du royaume du Portugal.
Pourquoi le Portugal?
Pour deux raisons. La première, c'est qu'à cette époque, Lisbonne est connue pour être un lieu depuis lequel beaucoup de marins partent pour de nouvelles explorations. Ce qui m'intéresse énormément. Et la seconde, c'est que l'un de mes frères y habite. Alors, je m'en vais le rejoindre et j'y passe 9 ans de ma vie.
9 ans ? Vous faites quoi pendant tout ce temps ?
Ah, plein de choses. J'apprends l'art de la navigation. J'embarque pour des explorations en direction de l'Afrique. Et je perfectionne mes connaissances sur le monde. Ah oui, et accessoirement, je me marie aussi. Et un beau jour, il me vient une idée incroyable.
Apprendre à nager ?
Utiliser un bateau à moteur ?
Regardez le film Titanic ?
Hein ? Non, rien de tout ça. Non. Moi, ce que je veux faire, c'est rejoindre le Levant par le Ponant.
J'ai rien compris. M'a perdu le bug. C'est une énigme ?
Non. Le Levant, c'est là où se lève le soleil, à l'est. Et le Ponant, c'est là où il se couche, à l'ouest. Donc, rejoindre le Levant par le Ponant signifie que Monsieur Colomb veut partir vers l'ouest pour arriver à l'est.
Mais c'est bizarre comme idée. Pourquoi partir à gauche pour arriver à droite ?
Pas si bizarre, quand on se rappelle que la Terre est ronde, Zoé.
Exactement. À ce moment, on commence tout juste à comprendre ça. Donc moi, je me dis qu'en traversant l'Atlantique, je pourrais rejoindre les Indes sans passer par le sud de l'Afrique, comme l'avait fait Vasco de Gama avant moi. Je me dépêche de faire part de mon projet au roi du Portugal. Et ce dernier va aussitôt refuser. Et je ne me décourage pas si facilement. Et en 1485, je pars en Espagne proposer mon projet à la reine Isabelle la catholique. Et elle... Bon, eh bien, elle refuse aussi. Mais je me permets d'insister. Et c'est finalement son trésorier qui interviendra en ma faveur. Et alors, la reine accepte.
Ouais.
Moi aussi, hein, j'étais fou de joie. Et c'est comme ça que 7 ans plus tard, le 3 août 1492, si ma mémoire est bonne, nous quittons le port de Palos, dans le sud de l'Espagne.
Et vous partez avec 3 bateaux.
Des bateaux que l'on appelle des caravelles.
Ouah ! C'est comme la caravelle de mon papy !
Je pense plutôt qu'il a une caravane, ton papy Malik.
Ah oui, peut-être.
Et qui connaît leur nom à ces 3 bateaux ?
La Sangria !
Je vois ce que tu veux dire, la Santa Maria, Zoé.
Ah oui, oui c'est ça, la Santa Maria. Et il y a aussi la Pinta.
Et la Niña.
Exactement. Vous voyez quand vous essayez, ça marche.
Ah oui, en effet, vous êtes bien renseignés. La traversée se passe bien, nous faisons une première escale aux Canaries pour nous ravitailler. Puis, après plusieurs jours de navigation, nous débarquons le 12 octobre 1492 sur une île splendide que je baptiserai San Salvador. Rapidement, nous faisons la connaissance de ses habitants. Et moi, persuadé d'être dans les Indes, je les nomme les Indiens.
Alors que vous êtes au large de l'Amérique centrale.
Ouais, tout ça à cause d'une erreur de calcul.
Ça pour une boulette, c'est une boulette.
Plus tard, quand je vais arriver à Cuba et que je vais voir ces champs de tabac, je croirais être au Japon.
On ne peut pas être bon partout, hein. Vous, c'est la navigation. Mais pas trop la géographie. Hein.
Oui, j'imagine. Oui. Finalement, nous visitons ces endroits et repartons vers l'Espagne pour y rentrer en mars 1493.
Elle ne devait pas être très contente, la reine d'Espagne, de savoir que vous vous étiez trompé comme ça.
Bah, tu parles ? J'avais tout de même découvert une terre nouvelle et quand je suis rentré, j'ai été célébré en héros. À tel point que je repars peu de temps après pour un second voyage. Un voyage au cours duquel je fonde la première colonie, la Isabella, en hommage à la reine Isabelle, sur l'île d'Hispaniola.
Et ils ont dit quoi, les habitants de cette île, quand ils vous ont vu arriver ?
Oui, parce que ça fait beaucoup de touristes d'un coup quand même. Hein.
Oui, au début ça allait, mais très vite ça s'est gâté. Ces habitants ont été maltraités et réduits en esclavage pour servir nos propres intérêts.
Ah bah bravo ! J'espère que vous étiez fiers de vous.
Pas vraiment, non. D'ailleurs, quand je rentre en Espagne en juin 1496, les rois catholiques sont très très mécontents d'apprendre cela. Toutefois, ça ne les a pas empêchés de me laisser repartir pour un 3e voyage, 2 ans plus tard. Le 30 mai 1498, j'étais à la tête de 6 navires. 3 se sont dirigés vers Hispaniola pour y retrouver nos hommes restés là-bas, tandis que les 3 autres, avec moi à leur commandement, font route vers le continent américain.
Là où se trouve actuellement le Venezuela.
Exactement. Et après avoir enfin posé le pied sur cette vaste contrée, nous avons retrouvé nos hommes à Hispaniola. Mais là, quand nous sommes arrivés, c'était le chaos. Les colons se disputaient entre eux. Les Indiens se révoltaient. Bref, l'île était à feu et à sang. Alors forcément, quand un représentant du roi nous a rejoints, il n'était pas content de voir ce désordre. Et, en guise de punition, avec mes 2 autres frères, nous avons fait le voyage du retour au fond de la cale.
Je suis sûr qu'il va encore trouver une solution pour repartir. Il est trop fort.
Eh, tu as raison, petit. Le 11 mai 1502, dans mon éternelle quête vers les Indes, je reprends la mer avec 4 caravelles. Un jour, alors que je suis sur le pont de mon navire, je vois une tempête se lever. Les vents sont violents et l'orage gronde tel un ogre. Les bateaux se font secouer comme des fétus de paille, leurs coques se percent et les voiles se déchirent. Je n'avais jamais vu des rafales pareilles. La mer était démontée.
Quoi ? Mais comment vous avez fait ?
De justesse, avec une centaine d'hommes, nous parvenons à nous échouer sur une île perdue au milieu de nulle part. Mais nos navires ont coulé, et on ne voyait personne à l'horizon.
Il vous restait plus qu'à ramer.
Et c'est exactement ce que l'un de mes membres d'équipage a fait. Il a ramé jusqu'à Hispaniola. Mais le nouveau gouverneur de l'île ne m'aimait pas beaucoup et a pris son temps avant de m'envoyer des secours. Finalement, après des semaines d'attente, en juin 1504, une caravelle nous récupère enfin.
Ah ouais, vous aviez sûrement envie de prendre une bonne douche.
Ça oui. Quand je suis arrivé en Espagne en novembre de la même année, je suis épuisé et malade. À bout de force, je m'installe d'abord à Séville, puis, une fois reposé, je pars à Valladolid, dans le nord-ouest du pays, pour rejoindre mes frères et mes fils. Et c'est là que, entouré de ma famille, je meurs le 19 mai 1506.
Vous avez encore fait un autre voyage après cela.
Ah bon ? Comment est-ce possible ?
Votre corps a été envoyé sur l'île d'Hispaniola et enterré dans la cathédrale. Et puis, quelques années plus tard, il a été ramené à Séville.
Hein ? Décidément, j'étais fait pour voyager. Bon allez, je dois vous laisser maintenant. Je suis toujours en train de chercher où j'ai bien pu faire une erreur dans mon calcul pour me tromper entre les Caraïbes et les Indes. Allez. Au revoir, les enfants.
Au revoir, Christophe Colomb.
Moi, madame, j'ai une question. Si c'est pas Christophe Colomb, le premier Européen qui a découvert l'Amérique, c'est qui ?
Plusieurs études récentes parlent des Vikings et d'un certain Leif Erikson. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que ça vous a plu.
Ouais !
Et on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Paillet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.